Rádio.
Rádio.
Même pendant la Révolution, ils nous donnent pas la parole. Y'en a marre. Y'en a marre. On occupe. On occupe le macadam.
Aucune hésitation. C'est là.
Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. C'est parti.
Permanente, aucune hésitation. C'est la révolution permanente.
Nous allons déposer une gerbe officielle au monument aux morts,
à l'hommage de la femme inconnue, du soldat inconnu.
Ça marche pas.
Voilà, vous avez bien compris que c'est un petit clin d'œil aux féministes qui, dans les années 70, avaient perturbé la cérémonie officielle sous l'Arc de Triomphe pour le soldat inconnu. Et puis c'est un clin d'œil aussi au fait que ça fait 40 ans après mai 68, on a besoin encore de faire bouger, de continuer. Il y a des choses qui nous sont reprises, il y a des choses que l'on va encore bousculer. Et donc, nous voulons véritablement là rendre cet hommage à toutes les femmes qui sont dans le combat et qui vont le continuer. Et on va en débattre tout à l'heure, on va échanger là-dessus tout à l'heure, quand vous le voudrez, sur des sujets que vous voudrez.
Il pleut. Il fait beau, il fait du soleil. Toujours il qui pleut, toujours il qui neige, toujours il qui fait du soleil. Jamais elle, hein? Pourquoi pas elle? Pourtant elle aussi souvent se fait belle. Il se fait tôt, il se fait tard. Toujours il qui se fait tôt, toujours il qui se fait tard. Jamais elle, pourquoi pas elle? Pourtant elle aussi souvent se font belle, regardez-les. Mais que seraient les femmes sans les hommes? Alors les hommes, bougez là, avec nous les femmes. Les femmes, femmes et hommes. Même combat.
Dans les champs, à l'usine, à l'église, dans le lit vide, trop grand, trop froid, dans les armoires, tout ce linge, inutile. Gardez les costumes, les chemises, les vêtements de travail pour ceux qui reviendront, qui viendront. Inconnues, veuves de l'inconnu. Absente à elle-même, hurle en silence dans le fracas de son cœur, remue la caisse du chat en pleurant. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi, petit matin promis, aveugle et doux, petit matin promis. Il n'y a plus que les enfants pour manger sa chair et réchauffer ses bras, plus jamais les draps froissés. Corps écorché de toute femme auprès d'amour, corps écorché de toute femme au bout du sang. Reprise par la douleur sur elle, des nids, des mots perdus. Frère, fils, mari, amant, fiancé. Traverse notre fille, traverse le temps, les bras ouverts. L'hiver, la terre dure, sèche, sur le chemin des heures. Larmes d'épines, couronne de clous, terreur visqueuse entre les jambes, traverse. Et nous serons plusieurs à cueillir la fleur fleurie des tombeaux.
De rencontre, que les différences se parlent, qu'elles disent la guerre, ses barbaries, ses replis, ses engagements. Renaissance des réconciliations, du cœur à la raison, des sciences à la poésie, que le changement du monde commence, ouverture d'espace, de sentier de vie, caresse des yeux, rencontre du jour et de la nuit.
1946. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution. L'arrêté du 30 juillet supprime la notion de salaire féminin. Où en sommes-nous?
On va occuper le pré, on s'installe sur l'estrade qui est là, ici au milieu.
avec des interventions, des engagements d'artistes, de syndicalistes, de festivaliers. Le propos étant aujourd'hui groupe de parole, prise de parole sur les questions de femmes, sur des sujets de femmes, sur des paroles de femmes. Donc à chacun, à chacune qui passe par là, de s'arrêter pour parler. Alors nous allons occuper le pré et à chacun de passer, de s'arrêter. À travail de même valeur, salaire de même valeur. L'égalité qui respecte les différents. Discrimination sur les maternités. Carrière morcelée, retraite amputée.
Un muslim dans le panique. Ma mère portait le voile dans son village natal, la Bougie, rebaptisée Bjaïa après l'indépendance. Elle, à mon âge, était déjà mère de 6 enfants. Mariée au sortir de l'adolescence, elle n'avait jamais rien compris à cette pénétration redoutée, obligatoirement sanglante, puisque la virginité était contrôlée le lendemain matin. Ma mère surveillait la sexualité comme une despote. Scrutons après m'avoir hissé sur l'eau de la machine à laver mon entrejambe de petite fille pour vérifier qu'une rougeur passagère remarquée durant la toilette n'était pas les symptômes de quelque plaisir solitaire. Enfant, je savais déjà. N'ai-je pas d'ailleurs l'impression d'avoir toujours su que mes sœurs et moi subirions à notre tour l'épreuve du drap nuptial, perpétuant ainsi la chaîne dont ma mère était le maillon précédent. Parfois à table, lorsque le sujet est évoqué, l'une d'entre nous proteste. « Hey, ma, je ferai jamais ça. » Ma mère hausse les épaules, pince les lèvres et superbement indifférente de son manque d'originalité réplique. Mais tout le monde en Algérie, ma fille, tout le monde.
Après maintes combats, 1990, la Cour de cassation reconnaît le viol entre époux. Arrêt du 5 septembre.
Pourquoi est-ce qu'un homme qui a dit ça? Parce que c'est un homme qui a souhaité dire ça aujourd'hui, en ce moment de parole de femme.
Berbère, c'est pas un berbe.
On a jusqu'à 16h30. Mais parler de la sexualité de femme par un regard de femme et non pas par un regard d'homme comme c'est souvent dans les romans masculins. Et justement, là, nous allons avoir quelques brins de lecture du troisième sexe.
Deuxième, pardon.
Ah, oh, qu'est-ce que j'ai dit ?
Troisième sexe.
T'as perdu tes pages, Barman.
Je suis debout sur un foutu rocher au bord de la mer à Paternoster. La mer cogne dans l'air ses guirlandes d'écume verte. Je regarde sans peur chaque bon dieu de vague au fond des tripes avant qu'elle ne se brise. Le rocher tremble sous mes pieds, les muscles de mes cuisses se bandent. Mon bassin expulse ses vieilles résignations. Et merde, je suis rocher, je suis caillou, je suis dune. Mes nichons chantent un air de cuivre. Mes mains cramponnent la baie du meurtre et la baie de la gueule. Mes bras se déchirent d'extase au-dessus de ma tête. Je suis, le Seigneur m'entende, une putain de femme libre.
L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par le chirurgien de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas.
Alors, donc, Simone de Beauvoir, extrait du deuxième sexe, du deuxième sexe, écrit, je rappelle, en 1948. Sans doute, je me suis trompée, je recommence. En effet, pour devenir un créateur, il ne suffit pas de se cultiver, c'est-à-dire d'intégrer à sa vie des spectacles, des connaissances. Il faut que la culture soit appréhendée à travers le libre mouvement d'une transcendance. Il faut que l'esprit, avec toutes ses richesses, se jette vers un ciel vide qu'il lui appartient de peupler. Mais si mille liens ténus le rattachent à la terre, son élan est brisé. Sans doute aujourd'hui, la jeune fille sort seule. Mais j'ai dit déjà combien la rue lui est hostile, partout des yeux, des mains qui guettent. Qu'elle vagabonde à l'étourdi, les pensées au vent, qu'elle allume une cigarette à la terrasse d'un café, qu'elle aille seule au cinéma. Un incident désagréable a vite fait de se produire. Il faut qu'elle inspire du respect par sa toilette, sa tenue. Ce souci l'arrive au sol et à soi-même. Les ailes tombent. À 18 ans, un futur grand écrivain accomplit seul une vaste randonnée à bicyclette à travers la France. On ne permettra pas à la jeune fille de se lancer dans une pareille équipée. Encore moins lui serait-il possible, comme il le fit un an plus tard, de s'aventurer à pied dans un pays à demi-désert et dangereux. Cependant, de telles expériences ont une incalculable portée. C'est alors que l'individu, dans l'ivresse de la liberté et de la découverte, apprend à regarder la terre entière comme son fief. Déjà, la femme est naturellement privée des leçons de la violence. J'ai dit combien sa faiblesse physique l'incline à la passivité. Quand un garçon règle un combat à coups de poing, alors il sent qu'il peut se reposer sur soi du souci de lui-même. Du moins faudrait-il qu'en compensation, l'initiative du sport, de l'aventure, la fierté de l'obstacle vaincu fussent permises à la jeune fille. Mais non, elle peut se sentir solitaire au sein du monde. Jamais elle ne se dresse en face de lui, unique, et souveraine.
On va faire une petite pause de 5-10 minutes de façon à permettre à ceux qui le souhaitent d'aller à la salle des fêtes parce que va commencer réfutation. Donc, dans 5 minutes, nous reprendrons jusqu'à 16h30. Mais on veut laisser le temps, on veut laisser le temps aux gens d'aller vers la salle des fêtes.
Je ne suis pas d'accord. On prend le temps aussi, on fait une pause musicale au lieu de faire le silence, si vous voulez. Je cherche juste quelqu'un qui me donne un branchement pour le piano, par exemple. Un homme, on a besoin des hommes, nous les femmes. C'est eux qui sont à la technique. Nous les femmes, on cherche une prise de courant, oui. Un homme, voilà, une prise de courant pour le petit piano que j'ai posé là. Oui, 5 minutes. Ah non, 5 minutes, vous voyez. Les hommes, il faut attendre 5 minutes. Bon, on n'a pas de solution avant 5 minutes, alors il faut occuper...
C'est que du jus.
C'est du jus, on veut du jus, les femmes. Et un pied de micro, voilà, par exemple. Du jus. Le fil est assez long. Surprise. Un petit truc là qu'au bout, là, ce serait sympa. Ouais. Ouais.
Non, mais attends, c'est pas qu'ils comprennent pas qu'il faut.
Que pendant. Sinon, je vais dans ma voiture chercher.
T'as pas de pain ? Bon, je vais dans ma voiture chercher un truc.
On pourrait occuper le vide, mais il y a toujours un problème technique. Tu veux dire qu'un trek pendant ce temps-là ?
Les femmes sans chador sont interdites dans les premiers rangs du théâtre de Téhéran, d'Astrange, 26 juillet 2008. Les femmes refusant de porter le chador seront interdites dans les 3 premiers rangs du prestigieux théâtre Roudaki à Téhéran. Les femmes qui veulent s'asseoir dans les 3 premiers rangs du théâtre doivent porter le tchador, a déclaré dans un communiqué la direction du Roudaki.
Alors toujours un extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, 1948. Aujourd'hui, l'homme accepte généralement que sa compagne conserve son métier. Les romans qui nous montrent la jeune femme acculée à sacrifier sa profession pour maintenir la paix du foyer sont quelque peu périmés. La vie en commun de deux êtres libres est pour chacun un enrichissement. Et dans les occupations de son conjoint, chacun trouve le gage de sa propre indépendance. La femme qui se suffit affranchit son mari de l'esclavage conjugal qui était la rançon du sien. Si l'homme est d'une scrupuleuse bonne volonté, amant et époux arrivent dans une générosité sans exigence à une parfaite égalité. Mais la plupart du temps, c'est encore la femme qui fait les frais de l'harmonie du foyer. Il semble naturel à l'homme que ce soit elle qui tienne la maison, qui assure seule le soin et l'éducation des enfants. La femme même estime qu'en se mariant, elle a assumé des charges dont sa vie personnelle ne la dispense pas. Elle ne veut pas que son mari soit privé des avantages qu'il aurait trouvés en s'associant une vraie femme. Elle se veut élégante, bonne ménagère, mère dévouée, comme le sont traditionnellement les épouses. C'est une tâche qui devient facilement accablante. Elle l'assume à la fois par égard pour son partenaire et par fidélité à soi, car elle tient à ne rien manquer de son destin de femme. Elle sera pour le mari un double, en même temps qu'elle est soi-même. Elle se chargera de ses soucis, elle participera à ses réussites, autant qu'elle s'intéressera à son propre sort et parfois même davantage. Élevée dans le respect de la supériorité mâle, il se peut qu'elle estime encore que c'est à l'homme d'occuper la première place. Parfois aussi, elle craint, en la revendiquant, de ruiner son ménage. Partagée entre le désir de s'affirmer et celui de s'effacer, La femme aujourd'hui est divisée, déchirée. 1948.
1er mars 2004, signature par le patronat et le syndicat de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, concrétise la concertation sur l'égalité professionnelle engagée par la ministre de la Parité et de l'égalité professionnelle. L'accord se décline en plusieurs points. Réduire les inégalités salariales, faciliter l'accès à la formation professionnelle pour les femmes, faire en sorte que la maternité ou la parentalité ne freine pas les évolutions de carrière, mettre fin au déséquilibre entre les hommes et les femmes lors des recrutements.
Vous avez entendu. Juillet 2008, comment les femmes participent au ménage? Prostitution à Téhéran, plus de femmes mariées que de célibataires. Sarah Mayed, AFP 2 juillet. Les femmes mariées sont plus nombreuses que les célibataires à se livrer à la prostitution dans la capitale iranienne, selon une étude universitaire. L'âge moyen des prostituées était au-dessus de 30 ans dans les années 1980 et 90, mais il est maintenant tombé à 15 ans et au-dessus, a dit M. Tabatayev, qui dirige une unité de recherche sur les femmes et les filles en danger à l'université Tarbia Modares. Selon un participant à la conférence intitulée « L'islam et les maux de la société », la pauvreté reste un facteur clé pour de nombreuses prostituées. Environ 11% des prostituées dans la capitale exercent ce métier, alors que leur époux est au courant, a dit Hossein Al-Zahedipour, qui a participé à l'étude de M. Rasoul Zadek Taba Tayav.
En 1965, la loi du 13 juillet modifie le régime légal du mariage du couple. Se mariant sans contrat. Non, c'est compliqué cette histoire. On va faire simple. 1965, c'est l'année où tout simplement une femme a pu avoir le droit d'avoir une activité professionnelle sans demander l'autorisation de son mari. 1970 seulement, mise en place de la loi sur l'autorité parentale conjointe. 1985, loi relative à l'égalité des époux dans les gestions des biens de la famille et des enfants. C'est pas très vieux.
L'humain est comparable à un oiseau qui a deux ailes, le masculin et le féminin. Si les deux ailes n'ont pas la même force, l'oiseau ne peut pas voler ou vole mal. Et il ne pourra atteindre son zénith. Son vol sera en revanche extraordinaire si ces deux ailes sont de force équivalente et ont les mêmes possibilités. Ce sont des paroles que l'on a pu lire dans les actes d'un colloque qui s'est tenu en Chine en mars 1999.
Alors, femme.
Alors, il paraît qu'ici, c'est un espace pour que les femmes viennent s'exprimer. Je suis venue vous dire que j'étais une femme et que ceci ne me donne pas le droit de revendiquer être un homme. En même temps, j'ai un peu besoin que l'homme soit un homme pour me prouver que je suis une femme. Parce que parfois... il y a confusion. Ça dérange les genres. Chez moi, c'est pas très clair tout le temps. La femme, là, pour moi, ça me pose pas trop de problèmes. Voilà.
Vous avez bien compris que c'est une scène ouverte, un lieu de parole, où vous pouvez venir comme s'est exprimée cette femme, qui est bien une femme.
Ils sont marrants les êtres, hommes ou femmes. Vous tout comme moi, moi tout comme vous. Et c'est pas du théâtre, c'est la vie. C'est partout. Ils sont marrants les êtres. Vous tout comme moi, moi tout comme vous. Et c'est pas du théâtre ici, c'est à ça, c'est la vie. C'est partout. Ils sont marrants les êtres. En entrant chez les autres, il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit, comme ici, ah, vous tombez bien, homme ou femme. Et on lui offre à boire et une chaise où s'asseoir à celui qui tombe mal. Personne ne lui dit rien. Ils sont marrants les êtres qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants les êtres. Celui qui tombe mal, homme ou femme, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier. Aïe! Et l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe ou elle passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants les êtres. Ils tombent, toujours. Ils tombent comme la nuit, ils se lèvent comme le jour. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit, ils se lèvent comme le jour. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour, comme le jour, comme le jour. Le jour, c'est masculin. La virilité, pourquoi dit-on la virilité? La virilité, curieux, hein? Voilà, réflexion. Tout à l'heure, ça se poursuit, hein, à 17h en bas, les femmes et les hommes.
Car il ne faudra pas trop compter sur les hommes pour nous accorder ce que nous ne réclamons pas assez fort. Si nous continuons à sourire adorablement, à supporter vaillamment, à aimer aveuglément et à ignorer ce que leurs confrères continuent à faire tout près d'ici à nos consoeurs, pourquoi les choses changeraient-elles?
Toujours en 48, 1948. Toujours Simone de Beauvoir, une petite phrase. Le fait d'être un être humain est infiniment plus important que toutes les singularités qui distinguent les êtres humains. Ce n'est jamais le donné qui confère des supériorités. La vertu, comme l'appelaient les anciens, se définit au niveau de ce qui dépend de nous. Dans les deux sexes se joue le même drame de la chair et de l'esprit, de la finitude et de la transcendance. Les deux sexes sont rongés par le temps, guettés par la mort. Ils ont un même besoin essentiel de l'autre et ils peuvent tirer de leur liberté la même gloire. S'ils savaient la goûter, ces deux sexes ne seraient plus tentés de se disputer de fallacieux privilèges et la fraternité pourrait alors naître entre eux. Et pour finir, Simone de Beauvoir cite un philosophe, un homme, et comme il y a plein de gens cultivés ici, on va voir si vous trouvez qui c'est un jeu. Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est, le rapport de l'homme à la femme. Du caractère de ce rapport, il suit jusqu'à quel point l'homme s'est compris lui-même comme homme. Le rapport de l'homme à la femme est le rapport le plus naturel de l'être humain à l'être humain. Il s'y montre donc jusqu'à quel point le comportement naturel de l'homme est devenu humain et jusqu'à quel point l'être humain est devenu son être naturel. Jusqu'à quel point sa nature humaine est devenue sa nature. Alors, qui a trouvé qui a dit ça ? Marx ! Bravo ! Alors, elle est très très forte. C'est Karl Marx. Non, c'est pas Rousseau, c'est Marx. Voilà. Je cède le micro. Et je vous conseille de relire Beauvoir, c'est pas mal.
Un pavé dans la mare. Ah, si le féminin s'arrête aux femmes, on est mal barré.
Ouais, ouais, mais définis le féminin, merci.
C'est curieux que le féminin soit au masculin.
On pourrait définir ce que c'est que le féminin pour toi ? C'est quoi le féminin pour toi ? C'est intéressant comme question, non ? S'il te plaît. Allez. Le débat est ouvert.
Oui, et je pense que c'est au cœur. C'est-à-dire que le féminisme aussi est mal barré, si ça arrête aux femmes. Le féminin. Je suis désolé, mais je ne connais pas. Disons que le. Il faut revenir, à mon avis, à quelque chose de difficile que j'aurais du mal à expliquer, surtout maintenant. Là, mais il faut revenir. On en revient toujours, nous sommes des êtres de langage. Ce qui nous fait humains, c'est le langage. Si on dit les femmes, c'est le féminin, c'est du biologisme, c'est du naturalisme. C'est plus l'humain, on rabaisse, on fait du scientisme, on fait je sais pas quoi, enfin, du biologisme. Le féminin et le masculin ont un rapport avec le langage avec ce qui nous fait. Ça a un rapport avec le fait qu'il y a deux sexes et il n'y en a pas trois. S'il y en avait trois, alors là déjà on serait très mal barré. Ça veut dire qu'il y aura un. Enfin bon. Mais non. Ah non. Là, c'est soit la folie, soit la perversion, je sais pas. Donc, oui, moi, je crois vraiment que le féminin est. Je sais pas si vous connaissez le truc de Lacan, je sais plus comment il dit, mais la jouissance féminine, c'est quelque chose d'indicible, je sais plus. Et qu'on retrouve par exemple dans le mysticisme. Donc il y a quelque chose, moi qui essaye d'être matérialiste, hein, parce que c'est pas facile de le rester, j'ai appris par des gens que j'ai fréquentés, auxquels je me suis confronté, comme notamment des psychanalystes qui se réclament de Lacan, qui aiment bien Marx, que je connais, qui mériteraient d'être invités ici, à mon avis. Bon, mais. Que. Enfin bon, là, je suis vraiment un petit peu. Donc, le mysticisme, c'est justement quelque chose qui concerne des hommes et des femmes, et qui est une jouissance, un renoncement à quelque chose, et une manière de fonctionner qui échappe à une jouissance, il n'y a pas d'autre mot, habituelle. Bon, là, il faudrait employer des termes qui noieraient peut-être certains ici, que j'aurais du mal à définir simplement, donc je préfère pas, mais il me semble que dans chaque être humain, il faut pousser ce qui a été dit au cours des derniers jours, l'autre est dans chaque individu, il y a l'autre. Et donc, forcément, si on prend un homme ou une femme défini biologiquement, eh ben, il y a forcément l'homme et la femme dedans. Le féminin et le masculin, je veux dire. Oui, voilà.
Parce qu'on est bien d'accord avec toi, si on a choisi un texte, ou si la copine elle a choisi un texte, elle disait « L'humain est comparable à un oiseau qui a deux ailes. » Le masculin et le féminin. Si les deux ailes n'ont pas la même force, l'oiseau ne peut pas voler ou vole mal. Et il ne pourra pas atteindre son zénith. Et nous, ça nous ennuie pas d'utiliser la question du féminin quand on sait que le féminin, c'est pas quelque chose d'étroit et de fermé. Et qu'il y a du féminin, qu'il y a du masculin, qu'on a chacun sa part. Et à un moment donné, l'important, il est peut-être d'accepter que nous, en tant que femmes, on soit féminine, on soit aussi masculine, y compris un homme en tant qu'homme, il puisse avoir des engagements dits féminins ou dits masculins. Le problème, il n'est pas là. Et la question d'aller au-delà, moi, je trouve que, justement, quand on se pose avec ces deux entrées-là, on n'a pas tout réglé, quoi.
Quelqu'un d'autre parmi les festivaliers, parmi ceux qui sont autour de nous? Pour l'instant, on a beaucoup parlé.
Pauvre Jeanne, la Lorraine et Henri IV, vers Saint-Gétorix, par qui t'es-tu fait battre? Où sont cachés les ennemis? C'est la Saint-Barthélemy et la France en plein été décapitée. Femme qui tourne contre toi tes armes au cœur des combats de quartier. Il ne te reste parfois que les larmes pour retrouver ton amitié. Si la France se mariait un jour avec elle-même, si un jour elle se disait enfin je t'aime, à l'inventeur et la ronde qui épouserait le monde, si la France s'embrassait un jour qui sait, pour la rose et le lilas en harmonie, la main gauche et la main droite enfin unies, le bleuet près du muguet, ce bouquet jeune et gai qui marie toutes les couleurs en quelques fleurs. Il faudra bien apprendre à vivre ensemble, dans le besoin ou les baisers, avec tes amants, tes parents, tes gendres, tes enfants de cœur opposés. Toi l'éternelle maman célibataire qui voudrait vivre, qui voudrait dormir avec toute la terre, que de serments éternels avec des lunes de miel pour finir en coup de tête après la fête. Femme qui tourne contre toi tes armes au cœur des combats de quartier, il ne te reste parfois que les larmes pour retrouver ton amitié. Si la France se mariait un jour avec elle-même, si un jour elle se disait enfin je t'aime, elle inventerait la ronde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait un jour, qui sait? Si la France, si le monde s'embrassait demain, qui sait?